Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Le monde entier connaît les Gypsy Kings, dont les tubes Jobby Jobba et Bamboléo font toujours danser les foules tout autour de la planète. Mais très peu de gens connaissent la véritable et hallucinante histoire de Chico, le fondateur des Gypsy Kings, séparé d'eux au sommet de leur gloire et qui tourne depuis avec son groupe Chico et les Gypsy, fidèle à l'âme, la culture et la musique gitane. Alors je reçois donc aujourd'hui Chico, le fondateur des Gypsy Kings, qui revient avec ses quatre guitaristes nous offrir Unidos, un album gorgé de soleil et d'amour autour de la voix orientale vraiment admirable de Asna. Bonjour et bienvenue Chico.
Bonjour, quel plaisir.
Partagé. Ouais. Chico, ça fait un demi-siècle que la musique gitane coule dans vos veines et vous fait parcourir le monde. Et pourtant, eh ben vous n'êtes pas gitan. Votre histoire, elle est follement romanesque. C'est pour ça qu'il est temps de la conter à tous ceux qui ont dansé sur Jobby Jobba et repris en chœur Bamboléo. Chico, qui signifie petit en espagnol, n'est pas votre nom. Vous vous appelez Jaloul, votre papa était marocain, votre maman algérienne, vous êtes donc un fils d'immigré installé à Arles, qui est tombé amoureux à l'adolescence, c'est ça, de la musique et de la culture gitane ?
Exactement, avec les gitans, avec la famille Ries, on habitait dans la même ville, en Arles, et pratiquement dans les mêmes quartiers, et puis on se retrouvait tout jeune, et une amitié est née avec un des frères Ries. Enfin, je les connaissais tous, mais Nicolas m'a amené un jour chez lui pour déjeuner, et au fur et à mesure, je voyais rentrer tous ses frères, il me disait c'est mes frères. Alors je les connaissais séparément, je ne savais pas que c'était des frères. Et à la fin, il rentre José Reyes, qui était le papa, et qui était le chanteur de Manitas de Plata. Et moi, je l'avais vu à la télé, j'avais déjà écouté des chansons dans des disques, et je croyais, j'étais dans un rêve. Et ce rêve-là est devenu une réalité qui a été incroyable pendant des années. Donc je suis devenu un petit peu le gitan d'adoption par cette famille Reyes, et puis l'aventure à Demera.
Qui vous a complètement intégré. Mais alors, je reste sur le surnom, parce que vous confiez que ce surnom de Chico, qu'on vous a donné l'année de vos 13 ans, a été déterminant de votre histoire, car en fait, le jeune Jaloul Bouchikri, ce qui est votre vrai nom, ouais, n'aurait jamais pu créer les Gypsy, c'est ça?
Peut-être. Tout ça, c'est des signes. Je crois que ce qui est important, c'est que c'est vrai, moi j'étais tout petit, et puis j'étais toujours entouré de grands, et quand on me cherchait, on disait « il est où le Chico ?» « Il est où le Chico ?» et qui veut dire le petit. Et puis en fait, ce nom m'est resté comme un tatouage. Et puis quand j'ai intégré cette famille Reyes et qu'on a commencé à faire un petit peu de la musique ensemble et vivre cette belle aventure musicale et humaine ensemble, ben le Chico, c'était cousu de fil blanc, quoi. C'était naturel.
Voilà. Alors, vous avez grandi à Arles, à une époque où le sujet de l'immigration n'était absolument pas polémique.
Du tout.
Du tout. Pourtant, vous dites, dans le petit livre absolument passionnant qui vient de paraître publié par Amazon, vous dites que les gitans, qui étaient totalement hors du système et nomades, parfaitement libres, inquiétaient quand même un petit peu la population, en particulier vos parents, qui craignaient pour votre avenir parce que, être ami avec les gitans, jusqu'où allait-il vous entraîner, c'est ça ?
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, ou dans notre communauté, ou autour de moi, pour s'en sortir, qu'est-ce que faisaient les gens de mon âge, ou un peu plus grands ? Ils faisaient des études pour aller vers le haut. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais vers le bas et je vais chez des gitans. Mais les gitans, ce n'était pas les Gypsy Kings d'aujourd'hui, il y a 45 ans ou 50 ans.
Bien sûr.
C'était les voleurs de poules, les voleurs d'enfants. Il y avait un fantasme qui était incroyable. Et même mes parents disaient, mais on a perdu notre fils. Parce que c'était... Et en fait, en plongeant dans cette communauté, j'en suis remonté avec cette image d'un peuple. J'ai réussi avec les enfants Reyes et avec le papa à l'époque à montrer une des facettes de la culture qui était extraordinaire.
Alors, on va parler de cette famille Reyes, mais je reste sur votre adolescence. Vous évoquez vos parents, Chico, il faut dire que vous ne faisiez rien, en fait, à l'époque, pour les rassurer, vos parents, parce que à l'école, vous étiez un cancre parfait, et alors votre professeur, paraît-il, excédé par vos mauvais résultats, vous avez fait une proposition absolument pas imaginable aujourd'hui avec l'éducation nationale. Il faut nous raconter en fait le pacte que vous aviez conclu avec lui. C'était son idée au départ.
C'était son idée. En fait, la première chose qu'il me dit à un moment donné, oui, je crois qu'il n'en pouvait plus, il me dit « c'est dommage que Cayenne soit fermée, je t'aurais envoyé passer ton certificat d'études là-bas ». Déjà, il a posé un peu le tableau. Et il me dit « écoute, ne viens pas, parce qu'en fait, je venais pas, ou quand je venais, c'était un peu, j'étais un peu le rebelle. Et il me disait, écoute, si tu viens pas, c'est pas grave, j'avertirai personne, et tout se passera bien. Et
en donc fait, c'était c'est ce qui s'est surtout passé. Ne viens pas
surtout
en classe.
Surtout ne viens pas. Et du coup, je suis...
Je ne préviendrai pas tes parents.
Ouais, c'est ça.
L'administration ne sera pas au courant. C'est
exact.
Entre toi et moi.
Exact.
Mais prends le large.
Prends le large. Et j'ai pris le large. Et puis avec mes copains, on allait passer des journées à Nîmes, à Avignon, autour de la ville d'Arles, même autour de
mais
l'école.
Mais vous faisiez quoi ? Vous aviez quel âge ?
Mais là, j'avais... c'était mes dernières années. J'avais 15 ans. J'avais... c'était 15 ans. Voilà. Parce que j'ai arrêté
c'est
à 16 ans.
C'est tôt pour quitter l'école. Hein.
Ouais, non, mais avec le recul, j'ai regretté. Parce que je me disais, à être à l'école, il fallait profiter d'emmagasiner, quoi. Parce que c'est quand même une opportunité. Mais bon, quand on est jeune, on voit les choses d'une façon. Puis avec un peu plus d'âge, ben, on fait la différence.
Alors, votre première bande d'amis, on a compris quand vous étiez tout petit, Chico, elle était espagnole. Vous devez à cette bande d'amis votre surnom. La rencontre avec la seconde bande, alors là, elle a été déterminante. Puisque les trois frères gitans qui sont devenus vos amis vous ont donc emmené chez eux. Vous avez rencontré le père qui chantait à l'époque pour Manitas de Platas. Manitas de Platas, il faut dire qu'il était mondialement connu. Hein.
Ah non,
il,
donnait star.
Il donnait des concerts au Carnegie Hall.
Ouais, ouais.
En fait, il était applaudi
il
partout.
Le tour de la planète.
Le tour de la planète.
Et
en
il jouait
Russie,
pour les plus grands.
À New York, à Los
exact.
Angeles, à Londres. C'était phénoménal.
Ouais.
Et vous dites que José Reyes, donc, qui était la voix leader... En
non,
fait,
c'était un artiste
de,
avec une
de ce
voix
groupe.
Incroyable.
C'était une sorte de seigneur gitan qui donc passait le plus naturellement du monde de la scène du Carnegie Hall avec Manitas de Platas au ramassage de la ferraille à Arles, tranquille dans son camion bleu.
C'est ça, il m'emmenait avec lui parfois. Et puis vous savez quoi ? Il se mettait à chanter dans ce camion et moi j'étais spectateur d'une émotion, mais c'est irracontable, c'était... inimaginable, José Reyes, avec cette voix, avec cette profondeur, avec cette émotion. Et moi, j'étais là, le petit Chico à côté, mais il faut voir, c'était des moments magiques.
Bon, Chico, la musique, elle fait partie intégrante du mode de vie gitan. Toute occasion est prétexte à s'emparer d'une guitare, sauf que le rythme et le son gypsy, ils sont particuliers. Rien à voir avec la guitare classique. Et chez les Reyes, on ne savait pas lire une partition. Même en jouant au Carnegie Hall. Alors, qui vous a appris à jouer de la guitare ?
Ben écoutez, à force d'être avec eux, on est parti un jour à Saint-Tropez. Et puis, le temps faisant que j'ai pris une guitare que m'avait offert mon frère. Et un jour, j'ai fait un mouvement et ils se sont tous retournés vers moi. J'ai eu même un peu peur parce que d'un coup, ils se sont retournés. Ils m'ont dit, mais qui c'est qui t'a montré ça ? J'ai dit, je ne sais pas. Ils m'ont dit, mais c'est ça ? Et du coup, ils ont vu que j'avais le rythme, je ne sais pas, peut-être le cardio.
Vous aviez appris par mimétisme.
Moi, je crois, peut-être, à force d'être avec eux. Et puis, à partir de là, ils ont commencé à m'enseigner. Parce qu'à la base, ils ne sont pas patients. Donc, ils ne donnent jamais de cours de guitare. Ils n'ont pas la patience de montrer des...
Mais là, on est doué ou on ne l'est pas ?
On est doué ou on ne l'est pas. Et en fait, et là, quand ils ont vu que j'avais ce rythme, ils m'ont dit, mais c'est ça. Et là, ça les a motivés à me montrer le reste. Et ensuite, de l'école musicale, c'était d'aller jouer tous les jours à Saint-Tropez ou ailleurs. Et là, j'ai grandi musicalement, quoi.
Mais pour le travail des harmonies, parce qu'il n'y a pas que les accords de base. Tout ça était à l'instinct ?
Mais tout ça était à l'instinct. En fait, dans le groupe, il n'y a pas un qui connaît la musique. Et Manitas ne connaissait pas la musique non plus.
Non plus ?
Non, non. Et du coup, c'est une musique qui se transmet d'oreille, de cœur, d'écoute, de partage.
Eh oui, on est en présence cet après-midi du fondateur des Gypsy Kings. J'ai mille questions à vous poser. Alors, on fait une pause très courte. On se retrouve tout de suite avec Chico.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois Chico Bouchiki, fondateur des Gypsy Kings, qui tourne désormais partout dans le monde avec son groupe Chico et les Gypsy, qui fait paraître d'ailleurs chez Amazon un petit livre absolument passionnant intitulé « C'était mal parti ». Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs en nous suivant dans ce récit improbable. Et je rappelle aussi que le nouvel album vient de sortir, Unidos, qui signe le grand retour de Chico et ses quatre guitaristes, accompagnés par la voix de velours oriental de la chanteuse Asna. Alors Chico, on continue de dérouler le fil du scénario absolument incroyable, improbable de votre histoire. On l'a dit, vous n'êtes pas gitan, mais adopté donc par le clan Reyes, eh bien... vous allez devenir un virtuose de la guitare gitane. Et voilà qu'en 74, l'année de vos 20 ans, pour fêter les 10 ans de carrière de Manitas de Plata, on vous invite à jouer sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Théâtre des Champs-Élysées, c'est à Paris. Donc, il faut monter de Arles à Paris. Et pour ça, vous dites, eh ben, c'est pas compliqué, je vais demander à mon père de me prêter la Peugeot 504.
Exactement.
Sauf que papa, il refuse.
Et voilà.
Alors, la suite, vous allez nous la raconter.
Ouais, donc pour moi, ce rendez-vous, c'était impossible que je le manque. Vous imaginez, au Théâtre Champs-Élysées avec Manitas, qui était la star absolue de l'époque, et José Reyes, et les enfants Reyes. Et je leur dis, je vais demander la voiture à mon père, qui me dit, non, non, la voiture, tu la touches pas. Gitan, pas Gitan, Manitas, pas Manitas. Et en plus, il connaissait pas, lui.
Théâtre des Champs-Élysées ou pas?
Ça lui disait rien. Lui, il était à Arles, il était dans autre, il vivait dans un autre monde. Et moi, donc, c'était impossible que j'y aille pas. Et le matin, je me lève et je casse une petite vitre de la voiture. Je traficote les fils.
Oui.
Et je prends la voiture, je prends la famille Reyes et on monte à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées.
Vous étiez combien
dans
la petite 504?
C'était la grande, c'était une familiale. C'est pour ça que c'était intéressant.
Ah, d'accord, d'accord.
On était six et avec le papa et on se retrouve.
Et avec les guitares.
Et avec les guitares. Et puis on se retrouve au Théâtre des Champs-Élysées. Mais surtout, quand mon père s'est aperçu qu'il n'y avait pas la voiture, ma mère, pour un peu le calmer, elle lui disait « mais c'est pas grave, il est parti à Nice ». Comme à l'époque, on allait beaucoup à Saint-Tropez dans le coin.
Oui, oui.
Elle lui dit « il est là sur la Côte d'Azur, Nice ou Saint-Tropez ». Et puis figurez-vous que quand on était au Théâtre des Champs-Élysées, on va faire une émission de télévision chez Daniel Gilbert à l'époque.
Midi 30.
À midi 30. Et on passe en direct à la télévision. Et mes parents déjeunaient et ils avaient l'habitude de regarder la télévision. Et d'un coup, ils me voyaient apparaître et ils disaient « mais… » Il y a un choc. Ils disent, mais il est où? Alors mon père, il regarde ma mère et il lui dit, mais tu m'as pas dit qu'il était à Nice?
Extraordinaire.
Et puis il y avait mon frère qui était là, il me dit, franchement, il y a eu un choc, mais quand même, il y avait une petite fierté dans leurs yeux qui. Ben, ils étaient contents quand même. Mais enfin, je ne suis pas rentré chez moi pendant 2 mois parce que c'était chaud. Et puis ma mère, au bout de 2 mois.
Ah oui, vous craigniez votre père quand même,
ah,
sacrément.
Ouais, ouais. Ben, c'est pas, je le craignais en même temps, c'est une forme de respect. Ce que j'avais fait, c'était pas bien.
Bien sûr.
C'était pas bien, mais. Mais bon, je ne pouvais pas manquer ça. Et puis, je suis parti chez ma tante pendant 2 mois. Et puis, un jour, ma mère est arrivée. Elle m'a dit, écoute, ça va, tu peux rentrer. Ça s'est calmé.
Et puis, alors, parlons de cette semaine royale à Paris. Vous dites d'ailleurs que cette première semaine à Paris fut comme une entrée au paradis. On pouvait donc, vous le compreniez alors, faire de sa passion un métier où on était acclamé. Donc, puisque tous les enfants Reyes jouaient naturellement avec vous cette musique gitane si festive, il était peut-être temps de penser à une structure, peut-être temps de créer un groupe. Et c'est là que vous allez avoir l'idée de faire ce que personne, en fait, dans cette famille gitane n'avait songé à faire auparavant.
C'est ça. C'est ça, le papa il jouait avec Manitas et d'un coup, moi j'ai resserré un petit peu les liens avec les frères et on a monté Los Reyes, donc c'est devenu José Reyes et Los Reyes. Et puis l'idée ensuite, elle est arrivée quand j'ai passé mon permis de conduire.
Oui.
Et mon frère me dit, si tu m'accompagnes au Lavandou, il partait faire le serveur là-bas, il me dit je te laisse la voiture. Donc évidemment que je l'accompagne, je récupère la voiture, je prends Nicolas et Pachay, les deux frères Reyes, et au lieu de rentrer en Arles, qu'est-ce qu'on fait? On va à Saint-Tropez. Je leur dis peut-être on va croiser des stars sur le port, on ne sait pas. Et quand on arrive à Saint-Tropez, en fait, on est tombé en panne d'essence parce qu'on avait pour rentrer à Arles, mais pas pour aller ailleurs. Et je leur ai dit, vous savez quoi? On va prendre les guitares, on va aller dans des restaurants, et on va les chanter, on va gagner un petit peu d'argent. Et il y a un gars qui passe et je lui demande, je lui dis, s'il vous plaît, où est-ce qu'il y a un restaurant sympathique où on pourrait jouer? Le gars me regarde et il me dit, mais vous avez qu'à aller à Tahiti. Et moi, je me retourne vers mes copains, je dis, mais on prend pour un con ou quoi? À Tahiti, pour moi,
c'était la plage à la mode à l'époque.
Ouais, mais je ne connaissais pas, moi.
Oui.
Et un deuxième me dit, en fait, effectivement, c'est la plage, c'est un restaurant, donc nous y allons et nous jouons là. Et c'est encore une révélation. Quoi,
parce et voilà, que... alors on va raconter ça tout à l'heure. Tout va démarrer, effectivement, de Saint-Tropez.
Exact.
Mais il faut préciser que, parce qu'en arrière-coulisses, l'histoire, elle est savoureuse. En fait, votre copain Pierrot, qui était serveur au bar de la Bourse à Arles, quand vous lui avez dit « ça y est, je sais ce qu'on va faire, on va créer un groupe, on va partir partout dans le monde, on va devenir des stars avec mes amis gitans », il a hurlé de rire et vous a dit « oh oh, un fils d'immigré maghrébin avec des gitans, bah t'es mal parti mon pote ».
C'est exactement ça, il me dit, et en plus il me l'a dit, il me dit « vous êtes mal barré ». Et en fait, quelque part, c'était une prémonition.
Mais n'y croyait-il pas ?
Parce qu'on ne faisait rien. Toute la journée, on était sur cette terrasse de café, on buvait un café et on passait la journée, à tel point qu'ils venaient nous voir, ils nous disaient « Mais je ne comprends pas, vous ne rentrez pas chez vous, vous n'avez pas de maison, partez, faites quelque chose, allez travailler. » Et ils me disaient « Mais pourquoi tu ne travailles pas ?» Je lui disais « Écoute, je me repose, parce que le jour où je vais travailler, je sais que je ne m'arrêterai plus. » Et en fait, franchement, c'est ce qui s'est passé. Le jour où on a commencé à travailler, on ne s'est plus arrêté.
Sauf que ça n'a pas été évident de les mettre au travail, vos amis gitans. Vous dites que les débuts ont été très compliqués parce que lorsqu'on est gitan, on n'aime pas la discipline. Et pour gérer des gitans, il faut un moral d'acier.
Ah ouais, franchement, c'était compliqué. Parce que moi, je voulais donner une image un peu sympathique avec une structure, avec un groupe qui était cohérent, avec des vêtements, avec une unité. Et puis, c'était chaque fois un qui arrivait avec un pantalon rose, l'autre bleu. C'était un peu n'importe quoi. Et il a fallu,
Quand ils venaient.
Parce que parfois, je les voyais le soir, je leur disais « Demain, on va à Saint-Tropez pour faire une petite soirée. » Le matin, il n'y avait personne.
Vous ne voulez pas sortir du lit ?
Et non, mais, ou alors ils se cachaient. Mais ils se cachaient. Il faut voir, c'était incroyable. Et moi, pour ne pas manquer cette petite soirée, qu'est-ce que je faisais ? À la dernière minute, j'allais chercher un guitariste que j'emportais avec moi. Et on partait à Saint-Tropez. Et moi, en fait, ce qui m'a sauvé, c'était cette constance que j'ai eue, ce respect et cette honnêteté d'être toujours là quand j'avais pris un rendez-vous.
Mais vous étiez à la fois le manager, le guitariste, le porte-parole et la locomotive.
Ah, mais c'était.
Vous étiez la nounou.
Le docteur, le. Ouais, je m'occupais des vêtements, je m'occupais de tout. Mais bon, en même temps, c'est tout ça qui a payé un jour. C'est toute cette énergie. Mais tranquille, c'était pas un travail de titan. Mais simplement, il fallait être cohérent.
Alors, vous avez effectivement d'abord joué sur la plage de Tahiti avec votre groupe que vous n'aviez pas encore baptisé les Gypsy Kings. Vous avez joué sur la plage de Moréa et puis à la Voile Rouge. Et puis très vite, Teddy Barclay vous a repéré et vous a demandé de venir ambiancer sa fameuse soirée blanche où chaque été, le gratin du showbiz investissait sa maison face à la mer. C'est-à-dire qu'on y croisait Delon, on y croisait Johnny,
Quincy Jones
qui venait faire le bœuf avec vous.
Incroyable. Et puis surtout, oui, Charles Aznavour, que j'ai rencontré là-bas pour la première fois et qui est devenu mon ami ensuite. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'Eddie Barclay, moi je me disais, mais c'était le producteur, Eddie Barclay,
bien
le manager.
Sûr.
Et
ouais.
Je me disais, il va bien comprendre la qualité de notre musique. Eh bien, il ne branchait pas.
C'est-à-dire qu'il ne vous proposait aucun contrat ?
Non, en fait, on l'encerclait parfois avec les guitares et on jouait. Et il nous disait « Ah ça c'est sympa, c'est à vous ». Alors là, d'un coup, moi mes yeux s'est réveillés. Et je disais « Oui, oui ». Il me disait « Mais vous en avez d'autres ?» Je disais « Oui ». Hop, mais ça restait là. En fait, le truc, c'est que les gens nous voyaient tellement à Saint-Tropez dans différentes soirées qu'ils pensaient qu'on faisait partie de ce décor. Et que moi, qui aspirais à la scène, c'était un monde imaginaire. C'est compliqué.
Alors Chico, les Gypsy Kings, donc, on l'a compris, n'étaient pas encore nés, mais il n'empêche quand même que vous étiez de plus en plus demandé pour organiser, ambiancer des soirées. Et alors c'est là qu'on retrouve votre copain du bar de la Bourse à Arles. Comme aucun membre du groupe n'avait le téléphone, et vous n'aviez pas non plus le téléphone, il paraît que pour vous joindre, il fallait laisser un message au bar de la Bourse, qui était pour vous en fait devenu comme le bureau d'un agent.
C'est ça.
Ask my agent.
Exact. Et ce qui était incroyable, c'est que le patron à l'époque prenait tous les messages, mais en même temps, il était content. Il était fier parce que ces petits jeunes qui passaient leur journée sur la terrasse, d'un coup, un jour, il m'appelle, il me dit « Chico, il y a la baronne de Rothschild qui vous a appelé, il faut que tu la rappelles ». Donc ça l'excitait, il était tellement content. Et c'était mon bureau. Et mon deuxième bureau, c'était chez moi. Au-dessus de la maison, dans l'appartement où nous étions, on avait des personnes âgées qui habitaient là. Et je donnais leur téléphone. Et quand le téléphone sonnait pour moi, elle me donnait des coups de balai pour se faire entendre.
Vos voisines étaient vos standardistes.
Exactement. Et puis je montais en courant. Elle me disait « On vous appelle, on vous appelle ». Et fait, non mais c'était, on a passé des moments vraiment incroyables.
On se retrouve tout de suite avec Chico.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le fondateur des Gypsy Kings, c'est lui, Chico, qui tourne partout dans le monde avec son groupe Chico et les Gypsy. Son nouvel album enregistré avec la voix orientale sublime de Asna a pour titre Unidos. Et il fait paraître, Chico, par les éditions d'Amazon, un petit livre savoureux baptisé « C'était mal parti ». Chico, votre destin, il s'est écrit au fil des rencontres et c'est ainsi que votre musique vous a fait voyager vraiment dès le début de l'aventure. Alors, comme ce jour par exemple où, suivant une petite amie qui vivait à Lausanne, vous vous présentez pour jouer comme ça, au hasard, dans un restaurant donc, de la ville et le patron vous dit « Ah, mais si vous venez ce soir, c'est pour Charlie Chaplin que vous allez jouer ».
Exactement. En fait, c'était à Lausanne, le restaurant s'appelle La Grappe d'Or. Et puis, le midi, je vois le patron et je lui demande si on peut jouer. Il se trouve qu'il adore la musique gitane. Il me dit, allez-y, on joue et tout le monde se régale. Et en partant, il me remercie et il me dit, si vous voulez revenir ce soir, il y a Charlie Chaplin qui sera là. Et moi, je me dis, mais Charlie Chaplin, c'est pas possible. Et je sors, je vois mon copain, je lui dis, tu te rends compte, si, ce soir, on revient, il y a Charlie Chaplin qui est là. Et il me regarde avec des yeux comme ça, il me dit, mais Charlie Chaplin, c'est Charlot de la télé? Je lui dis, oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? C'est un clochard, il me dit.
C'est joli.
Et en fait, le soir, on est revenu et on a joué devant Charlie Chaplin et sa famille qui était là. Il était âgé déjà.
Oui.
Et lui qui a fait rire le monde entier, quand il nous a écoutés, il s'est mis à pleurer. Et pour moi, c'était le moment de ma vie, quoi. On a grandi avec Charlie Chaplin.
Bien sûr.
On a vu cette tragico-comique dans ses films. Et pour moi, c'était un signe du destin que si on arrivait à faire pleurer Charlie Chaplin, je crois que notre musique avait de l'avenir.
Parce qu'on associe toujours Chaplin à l'époque du muet, mais Chaplin, il avait une passion pour la musique au point de composer les bandes-son de ses films.
Il était extraordinaire.
Et certaines de ses partitions sont devenues des succès planétaires, comme le titre Smile, qui a été enregistré par Céline Dion, qui a été enregistré par Nat King Cole, et aussi par Michael Jackson.
Ouais. Non, mais c'était un artiste incroyable. Une sensibilité mais énorme.
Alors, Chico, la rencontre, alors peut-être la plus emblématique, en tout cas celle que vous évoquez comme une providence, elle a eu lieu, cette rencontre, le 28 septembre 1978, ce soir-là. Vous jouez sur une plage de Saint-Tropez, où l'on fête, sous les étoiles, l'anniversaire de celle qui deviendra pour vous une sœur. C'est Brigitte Bardot.
Une grande sœur. Elle me disait, appelle, je suis ta grande sœur, tu es mon petit frère. Mais vraiment, il y a une amitié qui est née ce jour-là. Et c'est toujours le hasard ou mon destin qui m'amène à aller dans un magasin de musique, acheter des cordes de guitare. Et le propriétaire me dit, Chico, c'est bien que tu sois venu. Est-ce que ça te dit d'aller jouer pour un anniversaire? Je lui dis, évidemment.
Il vous dit juste un anniversaire, mais il ne vous dit pas de qui.
Après, quand j'ai dit oui, il me dit, et en plus, c'est pour Brigitte Bardot. Ah, alors là, c'était le miracle du siècle. Du coup, on va dans cette soirée. Il y avait 10 personnes qui étaient là. Elle nous a reçus d'une façon incroyable. On a joué, chanté, dîné avec.
Elle joue des maracas,
guitare.
Elle joue de la guitare, Brigitte.
Elle joue de la guitare, elle a dansé.
Et elle chante très bien.
Elle a chanté avec nous. Et ça a été vraiment incroyable. Elle me dit, c'est un des plus beaux anniversaires de ma vie. Et ça a duré comme ça toute la soirée. Et à la fin de la soirée, elle me dit, mais combien je vous dois? Mais je lui dis, excusez-moi, mais c'est plutôt moi, combien je vous dois? Et elle me dit, non, ça c'est autre chose. Et finalement, je lui ai dit, écoutez, c'est mon cadeau d'anniversaire, tellement qu'on s'est régalé. Et là, elle m'invite, elle me dit, écoutez, alors venez déjeuner demain à la Madrague. Et on se retrouve à la Madrague où on se fait encore une petite fête et on déjeune. Et ce jour-là, elle faisait un reportage pour Jour de France. Et on se retrouve en photo avec une double page dans Jour de France avec Brigitte Bardot, où personne ne nous connaissait.
Ah,
incroyable. Et du coup, une amitié est née. Et ensuite, c'est elle qui venait pour mes anniversaires en Camargue.
Absolument. Et alors, il paraît que spontanément, Bardot a appelé tous ses copains producteurs pour leur parler de ce groupe de musique gitane qui avait vraiment tout pour réussir. Donc, elle insistait. Mais bon, le problème, c'est qu'à l'époque, la star absolue, c'était Manitas de Plata. Voilà. Et il n'y avait pas de place pour d'autres gitans starisés. Vraiment.
Ouais. Puis elle me disait, mais c'est... ils ne comprennent rien. Enfin, on n'avait rien à voir avec Manitas. Manitas, c'était un guitariste. Nous, on était un groupe.
Plus flamenco, pourrait-on dire?
Plus flamenco, plus traditionnel, dans son style à lui, qui était un style unique.
Oui.
Mais nous, on était plus festifs. C'était la fête. Et Brigitte me dit, mais écoute, quand tu auras une soirée sympa, tu m'appelles, je viens avec vous. Je lui dis, mais Brigitte, tu ne peux pas arriver dans les soirées comme ça. Elle me dit, mais on s'en fout. Tu sais, elle était très cash. Elle me dit, viens me chercher. Et il se trouve qu'un jour, il y a eu un mariage pour des Allemands que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'appelle Brigitte et je lui dis, écoute, on fait une soirée. Je crois qu'elle doit être sympathique. Si ça te dit, je viens te chercher. Elle me dit, bien sûr, viens me chercher. Je vais la chercher. Elle monte dans notre voiture. Elle se met une jupe, une perruque. On arrive en jouant et elle se met à danser. Et la tête des gens qui disaient, mais c'est bizarre.
Elle ressemble beaucoup à Bardot.
La danseuse ressemble à Brigitte Bardot. Et de là est née la légende. Parce que les gens se disaient, mais tu te rends compte, tu engages les gitans.
Il faut dire que c'était la star mondiale absolue. On la connaissait jusque chez les Inuits.
Non, mais elle avait 45 ans. C'était,
et
c'était
d'une beauté phénoménale.
C'était le canon des canons. Quoi. C'était Bardot, c'est à l'arrivée, la terre s'ouvrait. Quoi. Et les gens venaient nous voir et nous disaient, mais tu te rends compte, tu engages les gitans et en plus, tu as Bardot en prime. Quoi. Et elle a été pour nous un porte-bonheur incroyable. Je lui rends chaque fois un hommage parce que franchement, elle n'aurait pas existé. Je ne serais peut-être pas là en train de vous en parler parce que les destins, ça tient à rien. Quoi.
Et c'est également sur une plage de Saint-Tropez que vous avez rencontré Enrico Macias, qui vous a demandé alors de venir jouer avec lui pendant 3 semaines à l'Olympia. Ça a été un triomphe. Mais alors, une fois de plus, voilà, on était dithyrambiques sur ce groupe gitan qui a accompagné Macias, mais aucun producteur ne voulait s'occuper de vous. Et puis, en 80, bah, la famille Reyes étant immense, n'est-ce pas, y a de plus en plus de groupes Los Reyes qui jouent autour d'Arles et au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors là, Chico, vous prenez une décision et vous inventez un nouveau nom pour votre groupe, les Gypsy Kings.
Exactement. Mais en fait, ça remonte un petit peu avant, parce qu'on avait la chance de Saint-Tropez, où on jouait dans les soirées privées. On partait en jet privé dans les Émirats, en Italie, en Europe, un peu partout. On n'était pas connus. Hein.
Non, mais vous aviez une vie de star.
Non, mais franchement. Et puis surtout, ce qui se passait, c'est que dans ces soirées où on allait dans le monde entier et qui ne parlaient pas le même langage, mais réagissaient de la même manière à notre musique, je me disais, mais notre musique est internationale.
Bien sûr, donc il faudrait un nom qui, en fait, intègre quelque chose d'anglo-saxon.
Exactement. Et puis un jour, je vais au Sainte-Marie-de-la-Mer et là, je vois dans un restaurant une affiche où il y a marqué « Concert avec musique gitane avec Los Reyes ». Et moi, je me dis, mais mes copains, ils font une soirée, ils ne me le disent pas, ce n'est pas possible. Je reviens le soir, je dis, je vais les attraper.
Ouais.
Et quand je rentre dans le restaurant, c'est un cousin à eux qui est là en train de jouer. Et je lui dis, mais pourquoi tu mets Los Reyes? Mais il me dit, Chico, qu'est-ce que tu veux que je mette? C'est mon nom de famille. Ah, c'était imparable. Ah, je me suis dit, avec tous les Reyes qu'il y a, parce qu'il y en a des millions dans le monde, j'ai dit, je ne veux pas m'embrouiller. Et le fait d'avoir réalisé que cette musique était internationale, là, j'ai commencé à réfléchir et j'ai changé de Los Reyes à Gypsy King.
Bon, alors c'est royal, les Gypsy King. Sauf que, Chico, personne ne voulait de ce nom, ni les musiciens gitans, ni leur famille, même pas Phonogram, qui s'était enfin décidé à sortir votre premier album. Tout le monde refusait le nom des Gypsy King. Pourquoi ?
Parce que ça ne collait pas à l'image. Moi, chez Phonogram, le directeur me convoque un jour, il me dit, Chico, on a un problème avec la photo de l'album, mais surtout avec le nom. Il me dit, vous n'êtes pas anglais, vous ne jouez pas du rock. Gypsy King, c'est...
Mais il y avait Gypsy dans le titre.
Oui, mais c'était trop en avance. En fait, je lui donnais une leçon de marketing avec 10 ans d'avance. C'était ça l'histoire.
Est-ce que Joby Joba, votre tube planétaire, était déjà sur ce premier album?
Oui. Il est sorti en 81, et d'ailleurs, il était à l'affiche du film J'ai posé une ombre avec Nathalie Baye et Francis Huster.
Oui.
C'était un film de Robin Davis, si vous vous rappelez. Oui. Et en 81, alors qu'on n'était pas connus, il a mis Joby Joba à l'époque. Et il nous a même mis sur scène, du coup, dans le film. On apparaît dans le film. Et puis, et vous imaginez que c'était 81 et le succès est venu en 87.
Mais c'est fou. Alors justement, on va raconter tout ça. Mais là, juste avant, j'ai trop de questions à vous poser, cher Chico. Qui a composé les titres qui ont fait la gloire des Gypsy Kings tout autour du monde, comme Joby Joba ou Bamboléo? Qui?
Ben, les frères et moi.
C'est-à-dire vraiment tous ensemble?
Tous ensemble. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on faisait tellement de soirées privées, tellement de fêtes, qu'on était toujours en train, avec nos guitares, en train de jouer. Et quand il y avait quelqu'un qui sortait quelque chose de sympathique, ça devenait un fil rouge qu'on tirait. Et tous ensemble, on en faisait une pelote, comme Joby Joba, comme Bamboléo, comme Ben Ben Marie, comme toutes ces
Donc,
belles chansons.
Donc tous les refrains de ces chansons-là, vous les avez composés à 7 ou 8?
Et beaucoup à Saint-Tropez.
Alors, ce qui effectivement est fou dans votre histoire, Chico, c'est que longtemps, très longtemps, les maisons de disques vous ont snobé. Même avec Claude Martinez, le producteur de Coluche, qui vous avait pris sous contrat, aucune maison de disques ne voulait distribuer Bamboléo, qui est devenu ensuite un succès planétaire. Non mais c'est fou. Et quand Sony Music s'est enfin intéressé au Gypsy King, la boîte de prod du producteur de Coluche s'est mise en liquidation. Donc vous n'avez jamais été payé d'aucun album vendu à cette époque-là?
Non.
Est-ce possible?
Oui, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, je vais vous expliquer la scission du groupe des Gypsy Kings. C'est que ça. C'est parce qu'un jour, j'ai osé demander des comptes à ce producteur, à Claude Martinez, parce que ça ne reflétait pas la réalité des concerts qu'on faisait dans le monde entier, des millions d'albums qu'on vendait.
Alors, on va justement parler de ça dans un instant. On retrouve tout de suite Chico, le fondateur des Gypsy Kings, qui aujourd'hui tourne dans le monde entier avec son groupe Chico et les Gypsy. A tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Le nouvel album de Chico, Asna et les Gypsy a pour titre Unidos. Je reçois Chico, le fondateur des Gypsy Kings. Alors, cher Chico, en 88, en 89, 90, 91... aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, au Japon, en Russie, en Angleterre et bien sûr en France, qu'est-ce qui tourne en boucle sur les radios Eh bien, ce sont les Gypsy Kings. Vous faites les tournées des stades, vous jouez à guichets fermés en Amérique. J'ai appris d'ailleurs qu'en 1991, la ville de New York vous avait invité à jouer à Central Park devant 40 000 personnes pour célébrer la fête nationale. Donc, ce n'était pas un groupe américain, c'était les Gypsy qu'on voulait à tout prix pour célébrer la fête nationale. Mais au milieu de ce triomphe, il y a un curieux malaise qui commence à se répandre dans le groupe, comme une sorte de poison qui infuse. En fait, vous ne vous entendez plus. Vous ne vous entendez plus
tout. Non, c'est que même se passe-t-il? Pas qu'on ne s'entend pas, c'est que simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai osé demander des comptes aux producteurs.
Oui, mais alors pourquoi vos amis guitaristes s'agacent de ça?
Parce qu'il les a manipulés. En fait, il a joué un peu sur la jalousie, sur l'ego. Ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, le deuxième album, Mosaïque, le deuxième album, le groupe ne voulait pas les faire de promo. Ils ont dit non, on n'y va pas, on est fatigué, ça ne paye pas. Enfin, ils croyaient que c'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris l'album et j'ai fait le tour de la planète. Et je me retrouvais dans des salles avec des journalistes où j'en avais 50, j'en avais 100. Et
comme vous étiez seul sans le groupe?
Seul sans le groupe, et je défendais l'album. Et donc, je me retrouvais dans des dizaines et des dizaines d'interviews avec des photos. C'était moi en première page. Enfin, j'étais partout, quoi. Et ce Claude Martinez, il va les voir, il leur dit à Nicolas, il dit par exemple, qui était le chanteur, il lui dit, mais Nicolas, toi qui es le chanteur, est-ce que c'est normal qu'on ne te voit pas et qu'on voit Chico? Et là, c'était mettre le verre dans le fruit.
Bien sûr.
Et voilà, en fait, il les a pourris comme ça. Il allait voir Tonino qui était dépressif. Moi, je croyais qu'il allait lui remonter le moral. En fait, il allait lui moudre la tête. Et jusqu'à ce que, ben voilà, on est arrivé à se séparer. Alors que les comptes, je les demandais pour tout le groupe. Et là, on peut dire qu'il a réussi son coup, mais malheureusement...
Il a provoqué la scission.
Il a provoqué la scission, mais ce qui est terrible, c'est que ça a quand même cassé une famille à cette époque-là, ça a cassé un élan, et puis...
Mais
c'est pas pour autant qu'ils ont récupéré leur argent.
Ce sens de la parole que vous avez, vous n'avez pas réussi à leur faire comprendre qu'il y avait un traître dans cette équipe, c'était le producteur justement, qui jouait un rôle funeste.
Ouais, mais sauf que moi, j'étais Chico, j'étais naïf à l'époque, j'étais gentil, j'étais... Je suis toujours gentil, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne connaissais pas, moi, toutes ces arcanes du showbiz.
Vous n'étiez pas de sang gitan à ce moment-là, peut-être ça a joué contre vous?
Peut-être aussi, oui, peut-être. Bien sûr, peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que, évidemment que j'essayais d'expliquer la situation, mais au moment où on a voulu, on se faisait des rendez-vous pour expliquer, mais on n'en parlait même pas. On avait déjà dépassé ce stade. En fait, il y avait un copain avocat qui était venu pour essayer de discuter avec eux, et en repartant, il m'a dit, Chico, vous savez, ce n'est pas les comptes qu'ils veulent, c'est votre compte à vous. Et là, ça m'a fait quand même bizarre. C'est un peu mal.
Le cœur se déchire. Et à cette époque-là, Chico, on voit fleurir, alors avec les cousins des cousins des cousins dans la famille Reyes qui est si nombreuse, on voit fleurir plus d'une vingtaine de groupes qui utilisent le nom du groupe Gypsy King que vous avez créé. Donc, en même temps, tous ces groupes-là tournent et ils prétendent tous être les Gypsy Kings.
Non, mais c'est ça, c'est que du coup, beaucoup ont profité de cette scission. Et comme les Reyes n'ont pas su se faire respecter avec cette marque, qui est une marque incroyable, mais en fait, aujourd'hui, vous avez entre 15 et 20 groupes qui tournent dans le monde.
Parce que ça n'avait pas été déposé.
C'est plus que ça encore, c'est un peu n'importe quoi. Et vous avez même des groupes où il n'y a même pas de gitans. Il y a un groupe en Italie qui s'appelle Gypsy King featuring Rico, par exemple. C'est des Italiens qui chantent nos chansons. Et voilà quoi, je veux dire, n'importe qui fait...
Et puis il y a un imposteur aussi, qui avait pris votre nom, qui se faisait passer pour vous, voilà. Et qui a même réussi ainsi à chanter sur la scène de l'Olympia.
Non mais c'est un truc incroyable. Moi qui connaissais le directeur de l'Olympia, il me dit même moi j'ai réussi à me faire avoir. Et en fait c'est un gars qui s'appelle José Luis Fernandez, et le nom de sa mère c'est Castillo. Donc
oui,
il se
mais il cultivait
Chico.
Une petite ressemblance pour que le directeur de l'Olympia
un petit peu, mais surtout il racontait mon histoire. Et c'est vraiment un mytho complet quoi. Et il a été condamné 3 fois par la justice française. Mais c'est un mytho, un malade, c'est un papillon, quoi. Et le soir du concert, j'ai envoyé, moi, une caméra pour aller filmer tout ça. Il y avait une file de gens. Et le caméraman posait des questions. Alors, vous êtes content d'aller voir Chico? Qu'est-ce qui vous plaît chez Chico? Il disait, mais nous, on adore les duos qu'il a fait avec Charles Aznavour. Vous croyez me voir, moi?
Mon Dieu.
Non, mais c'est un truc de malade, quoi.
Mon Dieu. Alors, elle a été vraiment éprouvante pour vous, Chico, l'année 91. Vous perdez donc le groupe que vous avez créé et vous perdez votre père. Et comme vous n'avez pas d'autre choix que remonter la pente, et bien vous décidez de fonder un nouveau groupe, mais la bataille judiciaire sera longue car on vous refusera le droit d'utiliser la formule Gypsy King dont vous êtes l'auteur. Donc va naître le groupe Chico et les Gypsy qui, cet hiver, sort un album de fusion entre la musique gitane et orientale. Et c'est la grande chanteuse orientale, Asna, devenue votre épouse, qui vous a inspiré cet album.
Oui, alors Asna, je la connais depuis 1993. On a eu la chance de faire des concerts un petit peu partout.
Vous êtes marié depuis 3 ans.
Oui, on était au Sporting à Monaco. On a fait plein de dates. On a fait vraiment. Et puis, on a fait, pendant le deuxième confinement, où on était à Marrakech, on a fait un anniversaire chez une amie qui a été une fiesta incroyable. Et du coup, ce moment magique, j'ai voulu l'immortaliser. J'ai dit à Asna, tu sais quoi, on va rentrer en studio et on va faire un single. Mais il y a eu une telle profusion d'inspiration, de création, qu'on est ressorti avec 14 titres, dont 11 originaux. Et on a réussi à fusionner ces deux cultures, donc c'est la fusion.
Oui, c'est vrai. Là, c'est une boucle parfaite, en fait.
Exact.
Puisque vous êtes originaire à la fois du Maroc et de l'Algérie par votre maman.
Exactement.
Donc là, ce mariage avec la culture gitane et l'Orient.
C'est des racines qui se retrouvent.
Extraordinaire. Alors, je ne peux pas ne pas parler de ce chapitre qui est absolument dramatique dans votre vie, Chico, parce que, allez, disons les choses. Voilà, votre frère, Ahmed, a été abattu par erreur par un commando du Mossad, quelques mois après l'assassinat des 11 athlètes israéliens, donc par l'organisation Septembre Noir aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Le Mossad avait faussement identifié votre frère comme étant le numéro 2 de l'OLP. D'ailleurs, en 96, le gouvernement israélien a décidé de verser une réparation financière à l'épouse de votre frère. Mais ce qui est une fois de plus dans votre histoire personnelle, ce qui est absolument fou, c'est que 2 ans auparavant, donc en 94, l'UNESCO, en ignorant absolument toute cette tragédie, l'UNESCO vous a demandé de donner un concert pour célébrer les accords de paix israélo-arabes. Et à la fin de ce concert, Shimon Peres, premier ministre israélien, et Yasser Arafat, chef de l'OLP, montent sur scène pour vous serrer la main.
C'est incroyable.
Alors qu'ils ne savent pas qui je suis. Ils sont à l'origine de l'assassinat de votre frère.
Oui, de par leur fonction. Ils représentent ce pourquoi mon frère a été assassiné, par erreur. Mais il a été assassiné, ça a été une tragédie pour nous et notre famille. Mais ce qui est incroyable, c'est ce destin qui me ramène dans le pays où mon frère a été assassiné, en Norvège, d'aller jouer à Oslo pour les représentants de ces deux pays. Et ce qui était encore plus fort, c'est que c'est les Gypsy Kings dont je venais de me séparer qui étaient invités, qui ont décliné l'invitation le matin, qui n'ont pas pris l'avion.
C'est ça.
Et l'UNESCO, du coup, fait appel à moi pour les sauver, parce qu'il y avait 6000 personnes dans
et
la
l'UNESCO
salle.
Et l'UNESCO ignorait aussi l'histoire.
Exactement. Et du coup, je la fais un peu courte. On se retrouve finalement à partir à Oslo. Et j'avais un de mes frères qui était là. Et à Paris, je l'invite avec moi et on va jouer pour ce moment mémorable, ce rendez-vous pour la paix. Et Shimon Peres Arafat monte et nous serre la main et me serre la main.
Alors, quelle est votre réaction ?
Ah, ben, j'allais encore des frissons aujourd'hui. Et pour moi, parce que personne ne me connaissait d'UNESCO, pour eux, j'étais Chico de Gypsy King. J'étais Chico d'un groupe de musiciens gitans qui venaient chanter Bamboléo, quoi. Et mon frère qui était là a pris la photo où je serre la main avec Shimon Peres et Arafat. Et c'est devenu une belle image de pardon. Parce qu'un an après, moi qui organisais un festival qui s'appelle Mosaïque Gitane, l'UNESCO organisait l'année de la tolérance et je leur ai demandé le parrainage pour faire une nuit de la tolérance, qu'ils ont accepté évidemment. Et ils sont venus en Arles pour voir ce festival. Et le lendemain, au déjeuner, je leur montre cette photo et je leur explique. Enfin, je leur montre et ils me disent « c'est génial, on a vécu un moment fabuleux ». Je leur ai dit « non, mais je vais vous raconter l'histoire de la photo ». Et là, je leur raconte l'histoire de mon frère.
Et ils blêmissent.
Et là, mais complètement. Et ils ont été choqués. Ils m'ont demandé la photo. Ils sont rentrés à Paris. Ils ont raconté l'histoire au directeur général Federico Maior. Il y avait le commandant Cousteau qui était là. Et Federico Maior, à la fin de l'histoire, a dit « si Chico accepte, je vais le nommer. Ça sera mon premier envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix ». Et le commandant Cousteau qui est là, il dit « mais s'il accepte, je le parraine ». Et ça s'est fait le 9 mai 1996. Pendant 25 ans, j'étais ambassadeur pour la paix, qui m'a permis de vivre encore des moments et des rencontres extraordinaires avec l'abbé Pierre, avec le Dalai Lama, avec Incroyable.
Alors tout ça, on le racontera une prochaine fois, parce que, hélas, on va arriver au terme de cette heure. Mon Dieu, qu'il y a de choses à compter avec vous, Chico. Pour ramener justement du soleil dans ce récit, je voudrais que vous nous parliez du patio de Camargue, dans lequel vous faites vivre en permanence la musique gitane. Ouais. Vous avez recréé un village gitan, en voilà, fait.
Exactement, on l'appelait le Gypsy Village. C'est le patio de Camargue en Arles. C'était une friche industrielle. J'en ai fait un lieu de vie et de fête et où on organise des dîners-concerts mémorables avec mon groupe une fois par mois. Il y a une guinguette au bord de l'eau. Il y a 3 salles de différentes capacités. Une vraie salle de concert qui fait 1000 mètres carrés. Et puis surtout, il y a le mot moteur de ce patio de Camargue, c'est la fête et le bonheur partagé.
Et... pour terminer sur une note optimiste, moi je précise qu'après toutes les colères évoquées, plusieurs membres des Gypsy Kings sont revenus vers vous, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, et jouent à nouveau avec vous.
Oui, parce qu'en fait, quand ils ont suivi le chemin de Martinez, ça a été très compliqué pour eux et ils sont revenus taper à ma porte. Et moi qui suis ambassadeur pour la paix, je me suis dit, mais le plus bel exemple que je peux donner, c'est dans ma famille. Donc évidemment, je les ai accueillis. Et puis voilà, et puis c'est un happy end qui n'est pas complètement fini, mais disons que ça a été encore des moments extraordinaires.
Unidos est le nouvel album de Chico et les Gypsy, accompagnant la voix admirable d'Asna. Merci infiniment pour cette balade
merci.
Exceptionnelle que merci. Vous nous avez offerte. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, Chico.
Avec plaisir, merci.